Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour notre dernier cours en théologie de l'iconologie, comme nous disons, qu'on appelle aussi des fois la théologie de l'icône. Et c'est justement sur ce sujet de la théologie à proprement parler, de l'icône, que j'ai l'intention de vous dire ce soir quelques mots. Donc, d'un point de vue théologique, la question fondamentale entre les orthodoxes et les iconoclastes était celle de l'icône du Christ, car la croyance en la divinité du Christ entraînait une prise de position sur le problème crucial de l'indescriptibilité essentielle de Dieu et sur l'incarnation qui le rendit visible. L'icône du Christ est donc l'icône par excellence. Elle implique une confession de foi dans l'incarnation. Celle-ci reste le fait dogmatique fondamental du christianisme et se trouve comme telle directement reliée à la triadologie et à l'anthropologie, tout en étant le sujet même de la christologie. Dans ces trois domaines, le moment de l'image se présente comme une notion essentielle et indispensable pour une compréhension correcte de l'icône orthodoxe. Commençons notre bref aperçu par quelques mots sur le concept de l'image dans la triadologie. On pourrait appeler ce petit chapitre « Le Fils, image consubstantielle du Père ». À peine sortie victorieuse des dernières années de la persécution par l'État, l'Église dut affronter la première grande controverse doctrinale de son histoire, la crise arienne. Dans l'argumentation anti-arienne, la notion de l'image devait nécessairement retenir l'attention des orthodoxes. N'était-ce pas saint Paul qui dit du Christ de façon on ne peut plus directe « Os est in icon tu Theou tu aorato » Il est l'icône, il est l'image du Dieu invisible, selon Colossiens 1,15 et 2 Colossiens 4,4. Selon Jean 14, 9, le Seigneur lui-même n'était pas moins clair en répondant à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il faut un peu ressentir la gravité de ce nom, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Que pouvaient donc signifier ces paroles dans le système de l'hérésiarque alexandrin? De même qu'il est monade et principe de tout, de même Dieu est avant tout. C'est pourquoi le leitmotiv de la pensée d'Arius, telle était l'idée fondamentale et le leitmotiv de la pensée d'Arius. À vrai dire, il n'y avait pas de place pour la triade chrétienne, car le Dieu d'Arius reste monade, une monade fermée sur elle-même. Seul Dieu, seul in engendré, seul éternel, seul sans commencement, seul véritable, seul possédant l'immortalité, seul sage, seul bon, seul puissant. Il est seul à n'avoir personne d'égal, ni de semblable, ni de même gloire. Dans un tel système, comme celui que je viens de citer, d'Arius, le Fils, en tant qu'image du Père, se voit réduit à une dissemblance radicale, c'est-à-dire à la différence absolue qui sépare la créature du Créateur. Le seul texte connu d'Arius, où il parle de l'image, dit cela très clairement. Comprend qu'il y avait la monade et que la dyade n'était pas avant de venir à l'existence. Ainsi donc, le Fils n'est pas Ainsi donc, quand le Fils n'est pas, le Père est Dieu. Et maintenant le Fils qui n'était pas, car il commença d'exister par la volonté de son Père, maintenant donc, il est Dieu monogène et étranger. Il est donc conçu selon mille et mille pensées, comme esprit, puissance, sagesse, gloire de Dieu, vérité, image et verbe. N'étant ni égal, ni coéternel, ni consubstantiel au Père, le Fils ne saurait être considéré comme image parfaite du Père qui puisse le manifester pleinement, puisque le Fils n'a rien en propre de Dieu qui lui est en. Car le Fils n'a rien en propre de Dieu qui lui est propre. C'est là une conception de Dieu, observe Christoph von Schönborn, qui détruit la véritable transcendance du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celle de pouvoir se donner entièrement au Fils et à l'Esprit sans que cela entame sa propre souveraineté. Comme tout le monde sait, la réponse de l'Église s'est cristallisée dans le terme « homoousios », introduit dans le credo de Nicée, qui devint dorénavant la bannière de l'orthodoxie. Au cours de sa lutte anti-arienne, les défenseurs le plus ardent de la foi de Nicée, Saint Athanase le Grand, fut amené à élaborer la doctrine ecclésiale de l'image en tant que terme technique de la triadologie. Pour lui, le Fils est l'image consubstantielle du Père. Il dit: quand tu parles de l'image, c'est le Fils que tu désignes, car qui pourrait être semblable à Dieu sinon l'engendré, sorti de lui? La paternité, comme l'une des caractéristiques fondamentales de la première personne de la Sainte Trinité, nous est révélée par le Fils, explique Saint Athanase. Elle n'est pas un hasard, elle est même une des très rares affirmations positives que nous pouvons avancer sur la première personne, une de celles qui nous permettent de la désigner. Avant tout commencement, en toute éternité, la première personne est Père de son Fils, son commencement et coéternel, Père du Logos consubstantiel. Mais puisque la qualité de Père et de Fils signifie l'identité d'essence, cela doit aussi se répercuter sur la notion d'image appliquée à des personnes de la Sainte Trinité. C'est pourquoi Saint Athanase dit: le Père est éternel, immortel, puissant, lumière, tout-puissant, Dieu, Seigneur, créateur et producteur. Il faut que tous ces caractères se trouvent dans l'image afin qu'ils soient vrais, que celui qui voit le Fils voit le Père. Si par contre, comme le pensent les Ariens, le Fils est produit et non éternel, ce n'est pas là une véritable image du Père, à moins qu'on ait l'imprudence de prétendre qu'appeler le Fils image ne connote pas une essence semblable, mais que ce n'est qu'une manière de parler. La désignation d'image qui est appliquée dans les Écritures, au Fils doit être portée, pour ainsi dire, à un niveau plus élevé que celui du langage quotidien et de la philosophie profane. Dans les hautes sphères de la révélation divine, seulement devient-il possible de forger la notion nouvelle du Fils, image plus consubstantielle du prototype paternel. Réservé au verbe monogène, l'attribut d'image ne serait jamais accordé à une autre créature, pas même aux anges, car ils ne sont pas eux-mêmes image, dit Athanase formellement. Mais qu'on ne se trompe pas à la métaphore de l'image. L'image de Dieu n'est pas une reproduction extrinsèque. Dieu lui-même est son générateur. D'où la conclusion, si Dieu est improduit, son image n'est pas produite, mais engendrée. Cette précision coupe court aux ergotages des Ariens. Nous avons là le genitum non factum du credo de Nicée, exigé en fonction du contenu strict et authentique de la catégorie de l'image. Ce fut le mérite de saint Athanase d'avoir enrichi la théologie chrétienne de cette notion de l'image consubstantielle qui devint d'ailleurs rapidement une partie constituante de la triadologie patristique. Donnons à titre d'exemple la parole à saint Basile le Grand qui, dans son écrit célèbre sur le Saint-Esprit, transpose la notion d'image par imitation et de la ressemblance par ce qui est commun sur le plan trinitaire. Ce que l'image est là par imitation, le Fils l'est ici par nature. Et de même qu'on a la ressemblance se prend sur la forme, ainsi pour la nature divine qui est simple, c'est dans la communauté de la déité que réside le principe de l'unité. Vladimir Lossky exprime la même pensée ainsi. Le Fils, image du Père, ne manifeste pas la personne du Père, mais sa nature identique dans le Fils. C'est l'identité essentielle qui est montrée dans la diversité personnelle par rapport à l'autre. Le Fils, en tant que icône, rend témoignage à la divinité du Père. Il faudrait donc, pour éviter tout équivoque, parler d'image naturelle, comme le faisait saint Jean Damascène, pour qui le Fils est une icône physique, complète en tout semblable au Père, sauf l'innascibilité et la paternité. Ainsi, nous sommes remontés à la source ultime de toute vénération chrétienne des images. Le Fils est dans le Père, comme la beauté de l'image réside dans la ferme archétype, dans la forme archétype. Encore une fois, le Fils est dans le Père, comme la beauté de l'image réside dans la forme archétype. Le Père est dans le Fils, comme la beauté archétype demeure dans son image, s'exclame Grégoire de Nice. Mais afin de prévenir tout malentendu concernant la théologie de l'icône, nous devons immédiatement souligner que cette nature paternelle identique dans le Fils reste en tant que telle toujours invisible et donc aussi indescriptible ou incirconscrite dans le sens de irréprésentable. Saint Athanase lui-même est catégorique à cet égard. Parmi les attributs que l'image et le prototype ont en commun selon leur divine ou sire, se trouve évidemment l'invisibilité. L'image du Dieu invisible est une image invisible, déclare-t-il sans embâche. La notion de l'image consubstantielle appartient exclusivement à la triadologie et ne peut être utilisée que dans la sphère divine des relations intra-trinitaires. En aucun cas, elle ne doit être considérée comme le premier maillon d'une longue chaîne d'images qui descendrait, pour ainsi dire, d'un quelque Urgrund divin et des cieux suprêmes jusqu'au niveau de notre perception optique et sa reproduction par la peinture. En tant qu'image essentielle ou naturelle du Père, le Fils reste sur le plan trinitaire strictement invisible et donc à périgraptos, indescriptible ou incirconcrit, car la périgrapsie, l'indescriptibilité est un attribut de la nature divine du Père qu'il a en commun avec le Fils. Dans l'économie du salut, le Fils, en tant qu'image consubstantielle du Père, révèle au monde cette divinité commune en sa personne. Tout à l'heure, lorsque nous aurons à nous interroger sur ce qui est représenté et représentable dans l'icône du Christ, nous ferons bien de nous rappeler que cette personne reste, même après l'incarnation, évidemment, l'hypostase du Verbe divin. Mais revenons à la victoire sur l'arianisme. Une des conséquences majeures de cette victoire était la sauvegarde non seulement de la possibilité d'un art chrétien, mais aussi et surtout de sa spécificité. Dorénavant, la tâche assignée aux artistes chrétiens sera de trouver des formes de plus en plus adéquates à la figuration de la descente de Dieu dans sa création et à la représentation des conséquences transfigurantes de cette venue. Visiblement inspirés par l'ampleur de la mission, les arts plastiques s'appliqueront à confesser, chacun par ses propres moyens, la foi de Nicée et la transposeront en des compositions nouvelles dans l'art de l'Église, mais facilement lisibles pour les contemporains, comme par exemple celle du Triomphator et Pan Vasilevs divin, roi de l'univers. Ainsi, une des particularités les plus marquantes des créations du IVe au Ve siècle consiste dans le fait qu'à quand autre moment de l'histoire de l'art chrétien, on a illustré autant de passages évangéliques où Jésus apparaît en gloire, nous dit le professeur André Gravard. La gloire divine du Fils monogène, non créé et consubstantiel au Père. Après ces brèves remarques sur la notion de l'image de la triadologie, nous pouvons nous tourner maintenant vers l'anthropologie, image et ressemblance de Dieu dans l'homme, don naturel et tâche personnelle. On sait que la Septante est la seule version de l'Ancien Testament reconnue par l'autorité du Consensus Patrum. Cette traduction paraît en effet comme une étape importante de la révélation, confirmée aussi bien par l'utilisation qu'en firent les auteurs du Nouveau Testament, les Pères et la liturgie. En Genèse 1, 26, nous lisons « Dieu dit, faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Cat icona imiteram que cat homo mio, o miosi. » Donc, faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Alors, parlons d'abord de l'image de Dieu. Selon les commentateurs patristiques, ce verset indique d'abord que l'image, que l'imago Dei est une donnée ontologique en l'homme, qui implique une relation particulière entre lui et Dieu, et qui reste par ailleurs un attribut inaliénable et indestructible de la nature humaine, voulu ainsi par le divin Créateur. De la sorte, l'être humain n'est pas créé autonome et suffisant à lui-même, mais pour la participation à la vie divine. En fait, ce n'est que en Dieu qu'il peut réaliser sa destinée originelle. Rien n'est plus « naturel » entre guillemets pour l'homme que de vivre et de grandir dans la grâce. Loin de s'opposer l'une à l'autre, nature et grâce expriment dans cette approche la dynamique vivifiante des relations entre le Créateur et sa création. Bien que radicalement différents selon leur essence, ceux-ci vivent dans une communion qui non seulement ignore l'opposition lourde de conséquences entre la liberté et la grâce, mais qui considère cette grâce divine et ses énergies incréées franchement comme le milieu naturel de l'existence humaine. Les pères entendaient le récit public du Jardin d'Éden précisément en ce sens, comme un aperçu de l'Église du paradis, où Adam possédait encore l'ancienne dignité d'homme libre. Comme le dit Saint Grégoire Palamas, oui, donc c'était une citation de Palamas, les pères entendent le récit biblique du jardin d'Éden précisément en ce sens, comme un aperçu de l'église du paradis où Adam possédait encore l'ancienne dignité d'homme libre, comme le dit Saint Grégoire Palamas. Le père Jean Mendoff, regretté par l'ensemble du monde orthodoxe, aime à parler à ce propos d'anthropologie ouverte. Anthropologie ouverte. À la nature pura de l'être humain selon la scolastique, nature quasiment neutre et renfermée sur elle-même, le père Jean oppose l'homme créé littéralement en état de grâce. Créé en état de grâce, naturellement ouvert à Dieu en vue de communion et de synergie. Une telle vision de la sainteté, entre guillemets, naturelle et voulue par Dieu de l'existence humaine se fonde ultimement sur la doctrine biblique de l'image de Dieu dans l'homme. Autrement dit, nous devons voir en Adam le porteur de la première image créée de Dieu. Genèse 1, 27 le dit clairement. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Reflétant cela, les tendances diverses de la pensée patristique, différents pères ont essayé de situer l'imago Dei dans l'homme. Certains, comme par exemple Grégoire de Nice, ont été influencés moyennant Origène par le néoplatonisme avec son concept de la syngénie. À ceci, c'est l'intellect nous qui paraissait se prêter le mieux à la fois à la localisation et à l'expression de cette parenté. D'autres, comme Saint Irénée de Lyon, avec sa sotériologie de la récapitulation en Christ, le nouvel Adam ou Palamas, considère en restant dans la ligne du réalisme biblique que ce sont pas uniquement l'esprit et l'âme qui ont part à cette qualité d'image, mais également le corps humain. Ainsi, Palamas dit, le nom de l'homme n'est pas appliqué à l'âme ou au corps séparément, mais à tous les deux ensemble, car ensemble ils ont été créés à l'image de Dieu. Vladimir Voski s'exprime dans le même sens. La personne humaine n'est pas une partie de l'être humain, comme les personnes de la Trinité ne sont pas des parties de Dieu. C'est pourquoi la qualité de l'image de Dieu ne revient pas à un élément quelconque du composé humain, mais se réfère à toute la nature de l'homme dans son intégrité. Tout comme par l'incarnation et la résurrection du Christ, le salut offert à l'homme se réfère à la totalité de sa nature sans exclure le corps. De même, la qualité de l'image de Dieu se référant à la même totalité doit nécessairement inclure la corporéité, ce qui est d'ailleurs clairement impliqué par la doctrine traditionnelle de la résurrection corporelle des morts. Cela dit, s'avancer davantage et tâcher de définir en quoi consiste précisément l'imago Dei ne semble guère possible, car comme l'explique Grégoire de Nice, l'image de Dieu dans l'homme, en tant qu'elle est parfaite, est nécessairement incognoscible, et donc incirconscrite et indescriptible, car en reflétant la plénitude de son archétype, elle doit posséder aussi l'incognoscibilité de l'être divin. Nous ne pouvons la concevoir autrement, commente Voski, que moyennant l'inné de participation au bien infini de Dieu. Comme il a déjà été dit, l'image de Dieu appartient de façon inaliénable à la nature humaine et rien ne peut détruire cette image, pas même le péché originel, contre nature au plus haut degré. Pour les pères, il n'y avait aucun doute que seule une personne libre pouvait commettre un péché et que ce péché restait toujours personnel. La doctrine du péché de nature, est même qualifiée d'hérésie par saint Photios, le grand patriarche de Constantinople. Dans le cadre de ce congrès, nous ne pouvons pas ici aborder avec plus de détails les interprétations du péché originel très différentes en Orient et en Occident. En ce qui concerne la compréhension orthodoxe, nous nous permettrons de renvoyer au chapitre particulièrement intéressant intitulé « Le péché originel » du livre du père Jean Meindorf, « Initiation à la théologie byzantine », où il montre que pour les pères, le péché originel d'Adam et d'Ève ne mène pas au péché héréditaire, et encore moins à une culpabilité héréditaire, mais, si j'ose dire, à une mortalité héréditaire. C'est pourquoi la mort du Christ sur la croix n'est pas une expiation atroce infligée au Fils de l'homme, mais la victoire de Dieu précisément sur cette mortalité. 1 Corinthiens 15-22. Et le rétablissement total de la splendeur originelle de l'image de Dieu devenue presque méconnaissable à cause de la mort et du péché. Et nous voici parvenus à la ressemblance. Si nous avons tant parlé de l'image inaliénable et insondable de Dieu, qui est finalement le lieu théologique du mystère de tout être humain, c'est avant tout parce que la ressemblance suppose l'image de la même façon que la chrismation, le baptême. Par rapport à la théologie de l'icône, celle-ci nous intéresse évidemment au premier chef. La ressemblance donc, celle-ci est dans l'œuvre du Saint-Esprit qui parachève toutes choses. Le Verbe, écrit saint Athanase le Grand, nous a donné les prémices de l'Esprit afin que nous puissions devenir fils de Dieu conformément à l'image du Fils de Dieu avec un F majuscule. C'est en Christ qu'est restituée l'image ternie de Dieu dans la nature commune à tous les hommes. Dans le baptême, dans lequel meurt le vieil Adam et nous ressuscitons en Christ, s'accomplit ce rétablissement pour chaque croyant individuellement. Le Saint-Esprit permet à tous ceux qui sont recréés à l'image, qui sont ressuscités de cette eau baptismale, de continuer à perfectionner cette ressemblance, à la parachever. Diadoque de Photicée décrit ce processus en se référant explicitement à l'art de la peinture. De même que les peintres tracent tout d'abord avec une seule couleur l'esquisse du portrait et en faisant fleurir peu à peu une couleur sur l'autre, précise la ressemblance du portrait à son modèle. De même aussi, la grâce de Dieu commence dans le baptême par refaire l'image telle qu'elle était quand l'homme vint à l'existence. Puis quand elle nous voit aspirer de tout notre vouloir à la beauté de la ressemblance, alors faisons fleurir vertu sur vertu, élevant la beauté de l'âme de gloire en gloire, elle lui acquiert la marque de la ressemblance. Le Damascène le dit ainsi, le Verbe a créé l'homme à sa propre image et ressemblance. Selon l'image vise l'esprit et la liberté. Selon la ressemblance, c'est qu'il est capable de lui ressembler par ses vertus. Le Christ inclut ainsi la nature commune à la multiplicité des hommes dans son unique hypostase divine. Le Saint-Esprit distribue sa nature divine qu'il a en commun avec le Père et le Fils à la multiplicité des hypostases humaines. Lorsqu'il écrit ce don de soi du Saint-Esprit en disant « Le Saint-Esprit s'efface en tant que personne, s'efface devant les personnes créées auxquelles il approprie la grâce. » En lui, la volonté de Dieu n'est plus extérieure à nous. Elle nous confère la grâce par l'intérieur, se manifestant dans notre personne même tant que notre volonté humaine demeure en accord avec la volonté divine et coopère avec elle en acquérant la grâce, en la faisant nôtre. C'est la voie de la déification aboutissant au royaume de Dieu, introduite dans le cœur par le Saint-Esprit dès cette vie présente. Car le Saint-Esprit est loin royal. Car le Saint-Esprit est l'onction royale reposant sur le Christ et sur tous les chrétiens appelés à régner avec lui. Et à tous les chrétiens appelés à régner avec lui dans le siècle futur. C'est alors que cette personne divine inconnue, n'ayant pas son image dans une autre hypostase, se manifestera dans les personnes déifiées, car la multitude des saints sera son image. Mais maintenant, venons-en justement à tous ceux et ces oints du Seigneur, au Christ et à la multitude des saints que nous représentons sur les icônes. Qu'est-ce que l'icône d'un saint? C'est l'image d'une personne qui a réalisé sa sainteté, l'image de celui qui, par l'acquisition du Saint-Esprit, emporte les fruits. L'image, par conséquent, de celui qui a pleinement utilisé les possibilités que lui a procurées le baptême, la totale reconstitution de sa qualité d'image de Dieu. L'icône s'efforce de représenter la ressemblance réalisée. L'image chrétienne spécifique est celle que montre, par des moyens qui lui sont propres, la sainteté naturelle voulue par Dieu de la créature qui se retrouve en communion pleine de grâce avec le Créateur et qui a pleinement réalisé cette communion. Et cela doit être montré, non par la tentation ni le combat, mais le résultat final, la paix dans le Seigneur, qui n'est plus qu'adoration et glorification. L'art sacré véritable montre le changement accompli, le salut, la transformation par Dieu et en Dieu du monde déchu et mortel. En un mot, la transfiguration. Celui qui œuvre à la réalisation de la ressemblance œuvre à la transfiguration du monde. Avec dire, avec saint Séraphin de Sarov, que le sens de la vie humaine est d'acquérir le Saint-Esprit, il revient à dire que le sens de la vie est de se réaliser pleinement comme être humain, car cela n'est possible qu'en Dieu, que en Dieu. La personne humaine rassemble dire avec saint Séraphin de Sarov que le sens de la vie humaine est d'acquérir le Saint-Esprit revient à dire que le sens de la vie est de se réaliser pleinement comme être humain, car cela n'est possible qu'en Dieu. La personne humaine ressemble au Christ dans la mesure où elle acquiert le Saint-Esprit, car celui qui rend manifeste et fait obtenir le Christ à l'homme. C'est donc réellement le Saint-Esprit qui accomplit la ressemblance divine dans l'homme. Dans ce même ordre d'idées s'ouvre à nous la signification profonde d'une autre formule du même saint Séraphin. Sauve-toi toi-même et des milliers autour de toi seront sauvés. Celui qui se donne du mal pour son salut œuvre pour la transfiguration du monde. Celle-ci est pour ainsi dire l'objet même et le thème de toute icône. Le troisième domaine que nous voudrions encore examiner brièvement du point de vue de la théologie de l'image est la christologie. Le théopaschisme présupposé nécessaire à une juste compréhension de l'icône du Christ. Ce qu'a été le concile de Nicée de 325 pour la triadologie, le concile de Chalcédoine le fut pour la christologie. Si l'Église après Nicée avait d'abord, si j'ose dire, digérer le homoousios, on peut dire la même chose de l'enseignement sur les deux natures en une personne. Il s'agit tout d'abord de présenter l'intuition fondamentalement sotériologique de saint Cyril d'Alexandrie, que lui-même exprimait en ces mots : le Verbe a souffert dans la chair. Déjà, l'expression Theotokos, Bogaroditsa, génétrix de Dieu, proclamée au Concile d'Éphèse en 431, qui résume en un seul mot, comme le pense saint Jean de Massène, toute l'économie du salut, devait signifier qu'il n'y a pas d'autre sujet en Christ que le Logos. Il en allait donc de l'identité personnelle, sotériologiquement nécessaire, du Verbe pré-éternel et sans commencement, avec le Logos incarné. Ainsi que l'exprimait déjà clairement le credo de Nicée, que voilà, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles, lumière de lumière, Dieu. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux et a pris chair du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour. Ici, dans le credo, cette identité personnelle est pour ainsi dire naturellement supposée. Elle sera particulièrement mise en évidence dans l'hymne au monogénis Ios, fils unique et Verbe de Dieu, attribué au grand Justinien en personne, et qui est chanté à chaque liturgie à la fin de la seconde antienne. Il y est dit, fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel et qui sans changement te fit homme et fut crucifié, ô Christ Dieu, par la mort ayant vaincu la mort, étant l'un de la Sainte Trinité glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. Le Père Jean Meindorf l'exprime ainsi. C'est ce verbe préexistant qui est le sujet de la mort du Christ. Car en Christ, il n'y a pas d'autre sujet personnel que le Verbe. Seul quelqu'un peut mourir, non pas quelque chose, ni une nature, ni la chair. Au cinquième concile, en réhabilitant pleinement la notion cyrilienne de l'unité, au mieux de l'unicité du sujet en Christ, met en lumière toute l'importance de l'unité hypostatique du Verbe incarné. C'est au Père Georges Swarovski que nous devons l'expression asymétrie de la christologie orthodoxe. Asymétrique car, au contraire de la nature divine, aucune hypostase propre ne correspond à la nature humaine, mais cette nature humaine a sa personne dans l'hypostase divine. Elle inclut en elle, elle est inclue en elle, est en hypostasiée. Toutefois, cela ne signifie nullement que ces énergies et actions ne sont véritablement humaines. Au contraire, c'est justement la notion d'hypostase qui permet à la théologie orthodoxe, dans sa compréhension du Dieu incarné, de sauvegarder le fond positif de la pensée antiochienne et du Thomas de Léon, à savoir que chaque nature conserve sa manière d'être propre. Chaque nature conserve sa manière d'être propre. Vous avez certainement deviné la raison pour laquelle nous nous sommes arrêtés brièvement sur ce thème. L'un de la Sainte Trinité a souffert dans la chair. Cette formule me semble la clé d'une juste compréhension de l'icône du Christ. Comme nous l'avons déjà dit, ce fut elle, et à vrai dire sa possibilité même, la pomme de discorde entre les orthodoxes et les adversaires des images, les iconoclastes. Il était clair pour les deux parties qu'il s'agissait là d'un problème fondamental de la foi chrétienne. Du point de sur le « i », pourrait-on dire, de la christologie orthodoxe. Nous savons que l'époque de l'iconoclasme, qui dura de 730 à 843, eut deux périodes dans l'intervalle desquelles se tint le concile de Nicée II. Nous sommes dans une année avec le numéro 7 à la fin. C'était en 787. Il y a plus que 12 siècles et 30 ans que ce concile a eu lieu, et nous savons qu'il reste tout à fait fondamental pour notre foi. La première période fut dominée par la personnalité rayonnante de Saint Jean Damascène. Les deux thèmes principaux de son combat ardent en faveur de la vénération des icônes peuvent être clairement définis. D'une part, l'icône du Christ comme profession de la foi en l'incarnation véritable. Peindre une icône signifie confesser la ensarchie economia, la divine économie du salut dans la chair, annoncer sa véritable incarnation. Et de l'autre, l'icône en tant que révélation de la matière transfigurée, emplie de grâce, matière qu'elle montre et qu'elle est aussi elle-même. Jamais, bien entendu, Jean Damascène ne vénérera la matière en tant que telle. Mais il dit, le créateur de la matière qui est devenu matière pour moi et qui a réalisé mon salut par la matière. Cependant, lorsque Dieu pénètre dans sa création, ou bien plutôt quand il accueille dans sa personne la matière d'un corps humain, il se passe quelque chose avec cette matière. Ce corps est alors divinisé, car il est le corps humain de Dieu. Saint Jean l'appelle homotheos, égal à Dieu. Ce corps est alors envahi par les énergies divines, pour ainsi dire débordante, et devient par rapport à la créature non encore transfigurée, source des énergies divines, tout comme une pièce de fer maintenue dans le feu se transforme elle-même en feu, sans pour autant perdre sa matérialité. Mais le corps du Christ n'est pas seul à devenir source des énergies divines grâce à l'incarnation. Tout ce qui a été compris dans son œuvre de salut et tout ce qui poursuit cette œuvre, notamment dans la liturgie, se retrouve inondé par le Saint-Esprit et communique sa grâce. Mais je vénère aussi le reste de la matière par laquelle m'est advenu le salut, comme étant rempli d'énergie divine et de grâce. Le bois de la croix n'est-il pas de la matière? Le calvaire n'est-il pas de la matière? Ou cette pierre qui porte la vie, le Saint-Sépulcre, n'est-elle pas la source de notre résurrection? L'encre et les livres des saints évangiles ne sont-ils pas de la matière? Ou l'autel qui nous donne le pain de vie, l'or, l'argent dont on fait les croix, les tableaux et les vases sacrés, ne sont-ils pas de la matière? Ou bien supprime la vénération de tout cela, ou alors concède à la tradition de l'Église également la vénération des icônes qui sont sanctifiées par le nom de Dieu et de ses amis, les saints, et que pour cela couvre l'ombre de la grâce du Saint-Esprit. Ne méprise pas la matière, elle n'est pas honteuse, car rien de ce que Dieu a fait n'est honteux. C'est pourquoi l'icône s'efforce de représenter dans son style et dans sa forme cette transfiguration du corps humain et tout ce qui l'entoure. Le critère suprême de la forme de l'icône nous vient de sa fonction liturgique, et ce critère est la prière. Tout dans l'icône doit servir la prière, doit même l'exprimer. Pour conclure, jetons un regard rapide sur la seconde période de la querelle des images. Deux noms sont à rappeler avant tout, celui du patriarche Nicéphore de Constantinople et celui de Saint Théodore Studite, qui développèrent dans leurs écrits les arguments avancés par le Damasène. Mais chacun d'eux apporta sa contribution personnelle à une élaboration plus approfondie de la théologie de l'icône. On pourrait ainsi formuler la contribution de Nicéphore. L'image est une ressemblance de l'archétype exprimant en elle-même par la ressemblance tout l'aspect de celui qui est figuré, à la seule différence de la substance distincte par la seule matière. La ressemblance historique avec la personne représentée, confirmée par l'inscription obligatoire de son nom, transforme l'image en lien mutuel entre celui qui prie et celui à qui est adressée la prière. Et Nicéphore souligne que sur le plan de la créature, une image n'est jamais de la même nature que le modèle, mais toujours de substance différente. Il s'oppose ainsi résolument à l'enseignement des iconoclastes que l'Eucharistie serait la seule vraie icône, car de même nature. Puis la dernière étape est franchie par Saint Théodore Studite, qui définit l'icône du Seigneur comme une image de l'hypostase du Christ et se rallie de cette façon entièrement à la doctrine christologique de Cyrille d'Alexandrie, du 5e Concile œcuménique et de Maxime le Confesseur. Il écrira par exemple: « Nous suivons la foi de l'Église et nous confessons que l'hypostase du Verbe est devenue l'hypostase commune des deux natures et qu'elle a hypostasié en elle, en afti, la nature humaine de la nature humaine avec les propriétés qui la distinguent. Pour cela, nous appelons à bon droit la seule et même hypostase du Verbe, incirconscrite selon la nature divine et circonscrite selon notre nature humaine. » Nous pouvons conclure donc brièvement que nous sommes ainsi parvenus à l'ultime question. Qu'est-ce qui est descriptible, puisqu'il s'agit de la descriptibilité, n'est-ce pas, pour une image? Qu'est-ce qui est descriptible en Christ? Qu'est-ce qui est descriptible en Christ? D'abord, sur le plan trinitaire, Le Fils, en tant qu'image consubstantielle du Père, témoigne de la divinité du Père. Cette divinité reste évidemment toujours invisible en tant que nature et en tant que divine. Dans le Verbe incarné, la nature divine consubstantielle au Père reste évidemment aussi invisible. Mais sa nature humaine, reçue de sa mère et consubstantielle à nous, n'ayant pas d'hypostase propre et étant onhypostasiée par le Verbe, garde sa propriété naturelle de descriptibilité selon la chair, tout comme elle a gardé, par exemple, sa volonté proprement humaine. L'image de Dieu dans la nature humaine du Christ est pleinement restaurée, mais demeure comme image reflétant l'incognoscibilité du modèle, invisible et donc indescriptible. La ressemblance divine de l'humanité transfigurée du Christ est totale, non par grâce, mais pour ainsi dire selon sa personne divine. En effet, le Saint-Esprit n'a pas besoin de parfaire une personne, puisque la personne qui assume la nature humaine du nouvel Adam est la divine hypostase du Verbe lui-même. Le corps humain transfiguré, mais néanmoins descriptible du Christ, consubstantiel à nous, et donc ressemblance parfaite, parce qu'on hypostasie dans la personne totale et parfaitement sainte du Verbe. Donc, il est le moyen et le lieu théophanique. La chair du Christ, descriptible bien que déifiée, nous montre la personne du Verbe parce que la ressemblance parfaite ne peut être que totalement personnelle. L'icône montre l'unique personne du Christ, Verbe incarné selon sa chair déifiée, indiquant par les moyens stylistiques appropriés qu'il a totalement réalisé la ressemblance divine dans l'homme en assumant comme nouvel Adam dans sa divine hypostase la nature humaine complète et descriptible selon la chair. S'il fallait résumer ces observations, je dirais, en m'inspirant du langage du 5e concile œcuménique de 533, que la phrase « Dieu a souffert dans la chair et il est mort sur la croix » peut être transformé de la façon suivante. 1. De la Sainte Trinité est devenu descriptible dans la chair et nous peignons l'image de sa divine personne. Mes chers amis, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite de très belles et reposantes vacances. Et évidemment, j'espère qu'on va se revoir en automne lorsque les activités de notre institut vont reprendre. Bonnes vacances.